Session Les Trois Sagesses du Père Marie-Dominique Philippe, le 13 septembre 1999 à Saint-Jodard.
C'est le point de départ d'une nouvelle année scolaire qui conduira très vite au jubilé de l'an 2000. Donc, il y a quelque chose de très particulier cette année-ci. C'est la grâce du jubilé de l'an 2000 qui doit éclairer d'une façon particulière cette année du côté des études, puisque ce jubilé prend toute notre vie chrétienne, toute notre vie religieuse. Et réclame de cette vie chrétienne, de cette vie religieuse, une note spéciale de dons beaucoup plus généreux. Il y a comme un appel très fort que le Saint-Père nous transmet et qui, chez lui, a une intensité très particulière. On le sent bien. Qu'est-ce que ça nous réserve? Nous n'en savons rien, comme toujours quand on est conduit dans la foi. Le Saint-Père dit qu'il va retourner, qu'il va faire avant le jubilé, ce voyage à Our, pour retrouver comme cette grâce du point de départ, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement impressionnant, cela. Où il est arrivé et revenir au point de départ. Quitte ton pays. Cet appel si impératif, si fort, de Dieu qui tout de suite réclame cet appauvrissement, c'est un grand appauvrissement quand on voit ce que ça représente. Un grand appauvrissement par rapport à ce qu'est l'installation dans une certaine culture, dans une certaine manière de vivre, qui tout cela pour aller vers un pays que je te donnerai. Je crois que pour nous, nous devons faire ce voyage-là spirituellement. On aimerait tous y aller, hein. Ça c'est sûr, s'il y avait possibilité de commencer ici et puis d'aller jusque là-bas, ça nous secouerait et on comprendrait. Spirituellement, c'est de faire ça. Quitte ton pays. Notre pays, c'est quoi, hein? C'est la culture actuelle, fin du XXe siècle. Cette culture actuelle qui se précise avec l'Europe, qui se précise avec les liens de plus en plus étroits entre le Nouveau Monde et l'Ancien. Et qui fait qu'il doit y avoir non pas une opposition dialectique entre les deux, mais au contraire, une union plus forte. Quitte tout cela. Quitter, c'est pas le nier, hein, faisons attention. C'est pas dire je m'en occupe plus. Non. Quitter, ça veut dire que mon cœur ne doit pas être attaché à cela comme à la vérité, comme à ceux qui dirigent ma vie. Qu'est-ce qui dirige ma vie? Si je suis chrétien, c'est le paraclet. C'est dit explicitement dans l'évangile de Saint Jean, qui est l'ultime révélation. Jésus étant le premier paraclet, puisque l'autre paraclet, c'est celui que Jésus nous envoie à partir de la croix. Il le dit très nettement. Et je crois que c'est lui seul qui nous dirige en nous faisant vivre de plus en plus du mystère du Christ. Le mystère du Christ n'est pas regardé comme quelque chose de passé dont on garde le souvenir. Le mystère du Christ est regardé comme quelque chose d'actuel qui nous est donné. Et qui nous est donné et qu'on doit vivre d'une manière intime, personnelle, intérieure, grâce à un choix. Nous avons été choisis par Dieu comme chrétiens. Nous avons été choisis par Dieu comme religieux, religieuses. Nous avons été choisis par Dieu en vue d'être prêtres, apôtres, témoins, témoins de la vérité, à la suite du Christ. Et ce choix est toujours actuel. Ce n'est pas une référence à quelque chose de passé. Le passé, dans ce qu'il a de divin, est actuel. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Nous comprendrons ça parfaitement dans la vision béatifique. Ici, nous devinons dans notre foi, dans notre espérance, dans notre charité. Nous savons que c'est comme ça. Le Christ hier, le Christ aujourd'hui, le Christ de demain est le même. C'est le même don que le Père nous fait, comme il l'a fait à Marie, comme il l'a fait à travers toute la vie cachée, comme il l'a fait dans sa vie apostolique. Le Christ nous est donné. Et c'est lui qui est notre lumière, c'est lui qui est notre vérité, c'est lui à qui nous nous référons tout le temps. Et la grâce du jubilé, c'est cette référence à Jésus d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus actuelle, pour que tout en nous soit repris par le Christ. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta culture humaine pour aller vers la terre promise, celle que je te donne. Mystère de l'Église. Notre terre promise, c'est l'Église. C'est l'Église telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans son autorité suprême avec le Saint-Père à travers nos évêques. Dans cette recherche constante de la vérité. Nous faisons cela vraiment pleinement et totalement dans l'Église, avec chacun nos lumières différentes, dans les diverses familles religieuses que nous pouvons, auxquelles nous pouvons appartenir, ou dans nos familles de la terre, qui sont saintes, par le sacrement du mariage. Il y a quelque chose qui est particulier pour chacun, ça c'est sûr. Et il est bon de le découvrir de plus en plus, personnellement, individuellement, qui met une note spéciale dans notre recherche, dans notre lecture de l'Évangile de Jean, dans notre lecture de la Bible, et dans notre lien avec le Saint-Père, dans cet itinéraire spirituel que nous devons faire, dans ce voyage aux origines, à la source première, et dans ce regard sur le passé de l'Église et ce qui est actuel dans l'Église, et ce que nous devons accepter et vivre pleinement. Je crois que cela, nous devons, cette année-ci, d'une manière très particulière le vivre. Vous voyez, avec une intensité très grande. Vous voyez, les dernières paroles de Jésus à Pilate sont très significatives. C'est très significatif, c'est à Pilate que Jésus dit ça. Pilate représente l'autorité temporelle de César. Et ça pousse toujours les Césars. Manières diverses, plus ou moins corrompues, plus ou moins laïcisées, plus ou moins anti-chrétiennes. César. Et Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est ses dernières paroles au monde. À ce que représente la culture d'alors. Il ne faut pas l'oublier, hein, que cette présence de César à Jérusalem est une présence étrangère par rapport au peuple d'Israël, qui n'a rien à voir avec la foi, mais qui manifeste son autorité, sa puissance, puisque seul César peut condamner à mort. Seul Pilate, qui le représente, peut le faire. Et Jésus se trouve confronté avec ce pouvoir. Jésus ne l'a pas fait de lui-même, il l'a fait forcer. Il est resté pour évangéliser son peuple, pour évangéliser les Grecs qui venaient à Jérusalem. Il ne les a pas écartés, jamais. C'est le point de vue universel, catholique, qui doit être présent dans notre cœur et qui est indispensable. Nous ne faisons pas une espèce de repliement sur une petite élite, parce qu'on se considère toujours comme présent dans cette petite élite, mais on ne fait pas ça. Notre témoignage, notre recherche de la vérité est pour le monde entier. En face de toute autorité temporelle et surtout en face de l'autorité du Père, et luire son soleil pour les bons et les mauvais. Or, dans cette recherche de la vérité, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de faire luire le soleil divin. Ce n'est pas nous, c'est Dieu à travers nous et par nous. Et qu'il fait luire pour les bons et les méchants. Et ce n'est pas nous qui choisissons la plupart du temps. Ça qui est très frappant dans l'Écriture, c'est quand il s'agit du prochain, quand il s'agit de faire luire la recherche de la vérité, ce n'est pas ce que nous avons choisi. Nous avons, nous, choisi des amis. Mais le prochain n'est pas celui que nous avons choisi. C'est celui que Dieu met sur notre route. Et Dieu le mettant sur notre route, il est là pour barrer, pour arrêter, pour faire que nous ne savons pas très bien ce que ça représente. Et qui il est. Oui, ça, je crois que c'est aussi très important de se rappeler tout le temps ça. Nous n'avons pas choisi de naître durant ce siècle. Si on avait pu choisir, je ne sais pas ce qu'on aurait choisi. On serait resté comme l'âne de Buridan. Impossible à choisir, parce que tous les siècles de la vie de l'Église, pendant ces 2000 ans, ont eu du bon et du mauvais. Et notre siècle, qui est le dernier des 2000 ans, a du bon et du mauvais. Et nous devons savoir quel est ce bon et quel est ce mauvais, mais devons toujours nous rappeler qu'il ne faut pas arracher l'ivraie trop vite. Jésus nous le dit. Donc ne faisons pas une espèce de sélection. Non, le prochain ne fait pas partie de la sélection. Le prochain, au contraire, ouvre notre regard et notre cœur à celui que la Providence a mis sur notre route. Nous n'avons pas choisi. Et ça, c'est capital pour rester toujours de bonne humeur. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Donc ne discutons pas là-dessus. Dieu ne nous a pas demandé notre conseil, grâce à Dieu. Il ne nous a pas demandé notre conseil. Il nous a mis là. Alors nous devons avoir vraiment ce regard très, très, très grand de la bonté du Père. Il y a beaucoup de bon dans notre monde, dans notre siècle. Beaucoup. Il y a actuellement comme un printemps étonnant de la jeunesse, très mystérieux et très beau. Dans le cœur de beaucoup de jeunes, on voit ça. Dans le cœur de beaucoup de jeunes foyers, on voit des choses admirables. Dans le cœur de beaucoup de petites communautés chrétiennes, on voit des choses admirables. Et on doit reconnaître cela et ne pas critiquer d'abord. Jésus est net, hein. Et dans les évangiles de ces jours-ci, on le voyait bien. Celui qui critique en premier lieu, c'est exactement ce que Jésus dit. Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, et puis tu critiques la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Et nous critiquons ça. Alors que la première chose à faire, c'est de se purifier. Comment nous purifier ? Cherchez la vérité. Vous ne purifiez votre intelligence et votre cœur que dans la recherche de la vérité. Dans la recherche de la vérité, et au terme, c'est Jésus pour nous. C'est sûr. Cette recherche de la vérité est absolument nécessaire pour la purification de notre cœur, de notre œil intérieur. Si nous ne faisons pas ça, nous maintiendrons en nous ce primat de la négation, ce primat de la critique. Et à ce moment-là, nous diminuons la grâce de Dieu en nous et autour de nous. Il y a là quelque chose de très, très important pour nous. Et dans cette année, vous voyez, jubilé de l'an 2000, je crois que c'est cela que nous devons voir en premier lieu. Ce que dit Jésus. Voir en premier lieu la poutre qui est dans notre œil. Et ne pas voir tout de suite, les défauts du voisin. Se corriger par une recherche de vérité. Il n'y a pas d'autre moyen de purifier votre cœur et votre intelligence. C'est la recherche de la vérité qui purifie votre intelligence et votre cœur. Alors si vous ne comprenez pas cela, il faut préciser les obstacles pourquoi vous ne le comprenez pas. Parce que ça, c'est l'évangile. La vérité vous libérera. Donc elle vous purifiera. Puisque seul un cœur pur est libre. Autrement, il n'est pas libre. Il est enchaîné à des quantités de câbles. Ce sont toutes les poutres qui sont dans notre œil qui nous empêchent de voir le prochain et de l'aimer. Et donc, la recherche de la vérité est ici pour nous principale, pour être témoin de la vérité. S'il n'y a pas recherche de la vérité, on ne peut pas être témoin de la vérité. Jésus, lui, il est la vérité. Donc il dit tout de suite, je suis témoin de la vérité. Nous ne sommes pas la vérité. Nous la cherchons en demandant à Jésus de prendre possession de plus en plus de notre intelligence et de notre cœur. puisque nous sommes chrétiens. Et par là, nous pouvons rendre témoignage à la vérité. Il y a là, pour nous, quelque chose d'extrêmement important qui donne le caractère propre de l'enseignement qu'on essaie de donner ici. Et pas autre chose que ça. Un niveau qui est le niveau fondamental, premier. De temps en temps, ultime. Vous voyez ce que je veux dire ? On va préciser maintenant ces différents niveaux de recherche de vérité. C'est, je crois, très important. Parce que l'homme, à la différence de Dieu, comme créature, est la créature la plus complexe qui soit. Dieu est omnino simplex, tout à fait simple. Et nous, nous sommes dans la complexité. Celui qui prétend être simple et qui ne voit pas cette complexité est dans l'erreur. Il se met à la place de Dieu. Évidemment, ce serait plus simple si on était tous très simples et qu'on pourrait immédiatement saisir la vérité. Les anges sont créés dans une simplicité beaucoup plus grande que nous. Oui, et c'est pour ça que les néoplatoniciens, un Plotin, regardent l'homme comme l'horizon entre le monde spirituel et le monde temporel. Il est l'horizon, c'est-à-dire, d'une certaine manière, par son regard, il cherche l'invisible. Et par cette démarche, il touche le sol. Et touchant le sol, il est lié au sensible. Par notre sensibilité, nous sommes liés à ce monde physique. Par notre intelligence, il y a un appel constant vers quelque chose de plus. Comprendre la complexité dans laquelle nous sommes est capital dans cette recherche de la vérité. Parce que ça nous permet de beaucoup mieux comprendre le prochain. Et dans la recherche que nous avons faite l'année dernière sur la personne humaine, nous avons essayé de comprendre comment l'homme se perfectionne lui-même, s'accomplit lui-même, par une recherche de vérité au point de vue de l'intelligence et de la volonté, au point de vue de la recherche de la vérité et de l'amour spirituel. Et comment l'homme, quant à son corps, implique un conditionnement substantiel. Et je crois que c'est juste de dire conditionnement substantiel. On est dans le conditionnement, c'est-à-dire on est dans le devenir. On est dans la complexité du mouvement par notre corps. Et cette complexité n'est pas accidentelle. Si elle était accidentelle, je pourrais la dépasser. Je pourrais dire pendant un certain temps, je l'accepte. Et puis au bout de 10 ans de recherche, maintenant c'est biffé. Mon corps n'existe plus, il n'y a plus qu'un corps aérien, spirituel, merveilleux, et c'est ça seulement que je regarde. Pas du tout. Plus vous avancez, plus vous vous spiritualisez, plus vous comprenez l'intelligibilité de votre corps, plus vous comprenez cette présence très particulière du corps qui conditionne notre vie. Et quand je dis conditionner notre vie, il faut le prendre d'une façon très rigoureuse. Le conditionnement ne détermine pas. Qu'est-ce qui détermine notre vie? C'est notre finalité. Autrement, ce n'est plus une vie humaine. C'est une vie instinctive et bestiale. Alors le conditionnement détermine. Le conditionnement ne détermine pas. C'est pour ça qu'on peut le dépasser. C'est pour ça qu'on peut l'assumer. Tandis que s'il déterminait, on ne pourrait pas le dépasser. Il serait tout le temps là. On ne pourrait pas dépasser votre manière particulière de connaître. Votre manière particulière d'aimer. Vous ne pouvez pas dépasser votre nature humaine. Vous pouvez prendre en elle ce qu'il y a de plus spirituel. Mais vous ne pouvez pas la dépasser. Vous ne pouvez pas dire, moi je veux vivre comme un ange. J'aime beaucoup les anges. Je trouve que c'est tellement plus simple, les anges. Faisons de notre communauté une communauté angélique. Ce ne serait pas vrai. Et alors à ce moment-là, vous aurez le droit de dire que votre conditionnement disparaît. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vivre comme un ange. Et votre foi, votre espérance et votre charité ne détruit pas votre nature humaine. La grâce suppose et présuppose la nature. Elle ne la détruit pas. Alors, parce qu'elle ne détruit pas la nature, ah oui, il faut que je vive avec et que je connaisse ce pauvre conditionnement corporel et que je suis là pour lui dire d'être un petit peu sage, d'être un petit peu tranquille, de ne pas trop ruer. Au bout d'un certain temps qu'on écoute un cours, on a envie de donner un coup de pied. Celui qui est juste en face de nous, parce qu'on est fatigué. Alors vous êtes blindé. Et c'est vrai ça. La bête humaine, on la tient. Mais on ne doit pas la tenir trop. Parce qu'autrement, elle va ruer. Donc il faut aussi la caresser. Et plus nous sommes de pur sang, plus il faut être attentif à ce que représente l'irascible en nous, la passion d'irascible et la passion du concupiscible. Vous ne pouvez jamais savoir parfaitement toutes les réserves d'irascible qui sont en vous. Vous ne pouvez jamais savoir parfaitement toutes les réserves de concupiscible qui sont en vous. Jamais. C'est un conditionnement qui est différent quand on est tout petit enfant, quand on commence à marcher, quand on commence à comprendre un tout petit peu ce que c'est, quand on a 7 ans, quand on en a 15, quand on a 30, quand on a 40. Et ce conditionnement est mesuré par le temps. Et il varie selon le temps. Votre intelligence ne varie pas selon le temps. Elle est au-dessus. Et vous voyez, c'est ça la complexité. C'est que jamais vous ne pouvez la quitter. La complexité du vieillard et la complexité de l'enfant sont différentes de la complexité de l'homme en pleine force, en pleine exigence de vérité. Ça, c'est très, très important. C'est peut-être, vous voyez, ce qu'on doit le mieux comprendre dans notre monde d'aujourd'hui. Notre corps ne donne jamais la solution de notre vie humaine. Jamais. Et la connaissance de votre corps, si vous pouvez arriver à connaître votre corps jusqu'au moment de la conception, ce qu'on voudrait beaucoup aujourd'hui, on voudrait être spectateur de la conception. Non, c'est impossible, je ne suis pas spectateur de ma conception. Ça fait partie du conditionnement humain. L'ange n'a pas ça. Comme il est heureux. Comme il est heureux. Tandis qu'il y a eu la conception. Il y a eu ce temps où on a vécu sans rien voir. Et notre mère voyait pour nous. Tant bien que mal. Et au fond, est-ce que nous pouvons, alors là c'est une question très importante et très actuelle, vous savez, est-ce que nous pouvons connaître le temps de notre conception? Oui, il y a des questions qui se posent comme ça. Et des questions qui sont des questions philosophiques. Hein. C'est des questions philosophiques, ça. L'union de l'âme et du corps me permet-elle à connaître ma conception? Ce moment si important. Est-ce que je peux connaître le moment où mon âme a été créée par Dieu? Ce moment si important. Où subitement, je suis apparenté aux anges. Je suis de ce monde, enfoui dans ce monde, dans le sein de ma mère. Et il y a quelque chose d'angélique. L'intelligence, l'âme spirituelle. Et connaître le conditionnement substantiel de l'homme avec le corps représente quelque chose de très impératif pour moi. Et je dois le connaître, parce que je dois le connaître autant que je peux le connaître. Je sais qu'il arrivera toujours à être quelque chose qui sera inconnu. La matière qui est dans mon corps, la matière, et pure potentialité, et substantiellement potentialité. Et donc, elle ne peut jamais être épuisée. Jusqu'à la fin de ma vie, il pourra toujours y avoir du nouveau et de l'original. Je ne suis pas fait du tout pour me répéter. Quand je me répète, ça vous fait très très fatigué. Alors à ce moment-là, je m'arrêterai. On dira, tu te répètes tout le temps. Tandis qu'au contraire, l'intelligence cherche, cherche, cherche. Oui. Et ça, c'est très très important de comprendre dans la recherche de la vérité. Que nous avons à chaque époque de notre vie quelque chose à découvrir, quelque chose de nouveau à découvrir. Chose qui nous est laissée à découvrir. Dieu nous a donné notre corps. Et notre corps a existé avant notre âme. D'une existence différente que quand l'âme est arrivée. Il y a eu un passage très curieux. Et ça, c'est pour montrer le conditionnement substantiel du corps. Et je crois que ça, on doit faire attention à cela, ça fait partie de notre personne humaine. Oui, c'est l'individualité dans laquelle nous sommes. Nous sommes un individu, par notre corps. Et en tant qu'individu, nous avons quelque chose d'unique. Personne ne peut nous remplacer. Intéressant, ça, par rapport à nous. Personne ne peut nous remplacer, nous sommes uniques. Et vous avez le droit de dire ça, va te permettre. Je suis unique. Ne me traite pas comme tout le monde, dans la lumière de tout le monde. Essaye de comprendre que je suis unique. Dites ça poliment. Mais vous avez le droit de comprendre ça en face de Dieu. En face de Dieu, tu as voulu que ce soit comme ça. C'est quelque chose de très curieuse. Hein. Nous sommes esprit et nous sommes corps. Nous sommes liés à notre monde physique et nous sommes liés au monde angélique. Et c'est pour ça que c'est souvent très triste que les théologiens aujourd'hui n'étudient plus du tout le domaine des anges. Et Saint Thomas, c'est le docteur angélique. C'est pour ça qu'on le fréquente avec tant d'amour. Il n'a jamais perdu de vue que l'intelligence était apparentée aux anges. Et les néoplatoniciens, là, ont suivi l'exemple de Thomas d'Aquin, disant que nous sommes l'horizon entre le monde physique et le monde purement spirituel. Nous tenons aux deux. Nous tenons aux deux, c'est-à-dire nous devons vivre des deux, mais selon un ordre, pas du tout à égalité. Je consacre tant de temps à mon corps, je consacre tant de temps à mon âme. Non, non, pas du tout. Je consacre tant de temps à me regarder dans la glace, je regarde tant de temps à regarder mon intelligence qui se développe. Premier acte d'intelligence. Oui, je crois que c'est très important dans une recherche de vérité. C'est que dans cette recherche de vérité, elle implique un fondement radical qui est notre corps. Et ce fondement radical qui est notre corps ne peut être compris que par notre âme. Je me souviens, j'étais à Fribourg. C'était un séminaire. On voyait cela chez Aristote, comment le corps est intelligible grâce à l'âme. Il y avait là un étudiant de Genève, espagnol, qui faisait une thèse de sciences biologiques. Il écoutait de façon très très curieuse. À la fin du séminaire, j'ai l'impression que je vous ai intrigué beaucoup. Alors il m'a dit tout de suite, mais c'est terrible alors, cette science biologique dont on dit on n'étudie que le corps, ses réactions vitales, son instinct vital. On n'étudie jamais l'âme. Alors au fond, on ne connaît pas le corps humain. Puisqu'on n'étudie jamais l'âme, on étudie toujours la cause matérielle, et uniquement la cause matérielle. Il avait très bien compris, hein. Et comme je faisais un doctorat en sciences biologiques, il me dit, mais c'est alors, c'est affolant. Et alors je lui dis, faites attention, faites un doctorat en sciences biologiques, hein. Acceptez ça, c'est comme ça qu'on doit l'accepter, il faut passer. Mais pour vous, comprenez que ce n'est pas suffisant. Notre corps humain est intelligible grâce à votre âme. Il y a une intelligibilité de votre corps qui ne peut se faire que par l'âme. Parce que votre corps conditionnement donne le conditionnement substantiel de votre vie humaine. Mais ne détermine pas votre vie humaine. Pas déterminé par votre corps. C'est votre âme spirituelle qui choisit la recherche de la vérité. Ce n'est pas votre corps qui me fait chercher la vérité. Oui, tout de suite, nous voyons là, le réalisme profond d'une pensée philosophique qui nous aide à pouvoir orienter notre recherche. Et c'est vrai, je ne peux pas modifier l'acte moral, le modifier spécifiquement, le déterminer par le corps. Si je suis malade, je sais que mon conditionnement moral en recevra des très grandes secousses. Mais il n'y a pas la morale du malade. Il y a la morale de l'homme. Mais la maladie conditionne. Quelquefois très profondément et de façon tellement profonde qu'on dit mais ça le détermine. Non, ça ne se détermine plus. Il y a des frontières et les frontières représentent des des situations limites. Et c'est vrai, il y a des situations limites où le corps est tellement abîmé, tu me mets dans un état d'infirmité tel qu'il y a des quantités de choses que je ne peux pas faire. Il me reste un tout petit champ de détermination humaine. Il faut voir ça. Ça fait partie du regard de vérité que je dois avoir sur moi. Je cherche la vérité. Et je suis témoin de la vérité pour la complexité de ma vie. Et ma vie, dans ce qu'elle a de plus spirituel, tend à se simplifier, tend à pénétrer toujours plus loin dans la vérité. On a fait cette étude très simple chez Thomas d'Aquin. On a regardé Thomas d'Aquin, premièrement commentateur des sentences. Thomas d'Aquin, écrivant le Contre-Gentilès, Thomas d'Aquin écrivant la Somme. La constatation tout de suite qu'on fait, c'est que saint Thomas a un langage de plus en plus précis et de plus en plus simple. C'est beaucoup plus facile pour nous de lire la Somme en latin que de lire le commentaire des sentences. Le commentaire des sentences, il faut déjà être assez avancé dans la connaissance du latin. Tandis que la Somme, c'est relativement facile. Vous voyez la simplification, même dans le langage. Parce qu'au fond, plus on avance, plus tout se simplifie. Mais ça ne se simplifie jamais radicalement. Je ne peux pas arriver à dire « je vais vous faire un cours ». J'ai beaucoup pensé. Je suis arrivé à une simplicité merveilleuse. La parole complique, puisque c'est un appel à un instrument matériel. Alors si vous voulez, je vais penser en face de vous. Je ne dirai plus rien, parce que dès que je parle, c'est compliqué. Je ne dirai plus rien, je vais penser. Je vais penser à la vérité. Je vais penser à la... C'est suffisant. Vous voyez, je peux pas. Si j'étais ange et que vous étiez ange, je pourrais dire, oh, on va faire comme ça. Je penserai, puis je vous enverrai un influx merveilleux. Et vous serez illuminé. Parce que les anges s'illuminent. Avancé que les gardes autres, il les illumine. Tandis que ce vieux professeur, c'est un dominicain, qui disait toujours, je peux vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. Dans les cours, je vous donne l'intelligible, je vais vous donner le possible. Et c'est vous qui recevez par l'intelligence. Et notre intelligence se simplifie si elle cherche la vérité. S'amplifie en cherchant la vérité. Si elle ne cherche pas la vérité, elle se complique de plus en plus. Arrive à un moment où c'est tellement compliqué qu'on ne comprend plus rien du tout. C'est très curieux, cela. Et vous voyez, c'est toujours la même chose. Nous pensons et nous parlons. Nous pensons notre intelligence. Nous parlons, notre corps est présent. Ça, c'est évident. Notre corps est présent. Si je suis fatigué, la voix le ressent, et donc la parole et la communication. Tandis que la pensée elle-même n'est jamais fatiguée. Je suis fatigué, ça correspond à mon imagination, à ma mémoire, mais ce n'est pas mon intelligence. Mon intelligence ne se fatigue pas. Mon intelligence n'a pas d'âge. C'est comme ça que je peux vous parler. La bonne âge. Tandis que je ne pourrais pas vous suivre dans une course montagne. Vous courriez comme des petits lapins et moi je serais derrière. Oui. Alors, on voit très bien. Et l'intelligence, je dis jusque dans la parole, jusque dans l'enseignement, on voit cette dualité. Et elle est importante parce qu'elle fait qu'il y a des niveaux différents de pensée. Et ces niveaux différents de pensée, nous devons les respecter. Et c'est ces niveaux différents de pensée que nous allons préciser. Premier niveau de pensée, et un niveau qui atteint un sommet, c'est la philosophie, la sagesse philosophique, la philosophie sapientiale, comme dit le Saint-Père. Premier niveau. Second niveau, la théologie. Il y a une sagesse théologique à partir de la foi. Troisième niveau, la science. Du don de sagesse. Trois sagesses. Saint Thomas le dit explicitement. Le Saint-Père, dans son encyclique, le dit explicitement. Nous devons comprendre ces trois niveaux qui, je crois, caractérisent vraiment trois niveaux de sagesse. C'est pas n'importe quel niveau, hein, c'est trois niveaux de sagesse. Donc trois niveaux qui ont leur perfection et qui ne sont pas appelés à disparaître. Ils demeurent tout le temps. Jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons trois niveaux de sagesse. Et ces trois niveaux de sagesse ne s'excluent pas. La sagesse mystique n'exclut pas la sagesse théologique, et la sagesse théologique n'exclut pas la sagesse philosophique. Et la sagesse philosophique est le fondement. C'est donc très important à saisir ça. Et de comprendre que ces trois niveaux ne s'excluent pas. Plus vous approfondirez la sagesse philosophique, plus vous serez capable de découvrir, si vous êtes chrétien, la sagesse théologique. Plus vous êtes enfoncé dans la sagesse théologique, plus vous devrez entièrement vivre de la sagesse. Et comme il n'y a pas d'exclusion, il peut y avoir au contraire une coopération. C'est ce que nous essaierons de voir. Les trois niveaux, leur coopération, et comment les trois, pour être un vrai chrétien, un chrétien qui va jusqu'au bout de toutes les ressources que Dieu a données, qui soit un vrai serviteur de Dieu, il faut voir comment ces trois sagesses présentes dans notre vie et comment elles doivent être présentes dans notre vie. Alors nous commencerons par la sagesse philosophique. C'est normal, puisque ici nous faisons de la philosophie. Mais tout de suite, nous faisons de la sagesse philosophique. Nous faisons de la philosophie en vue de la sagesse philosophique. Et ça, c'est capital de comprendre ça.